Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens, propulsé par le réseau Radio Campus France. Les Radio Campus scannent en permanence les initiatives étudiantes, étendent chaque semaine leur micro aux étudiants, citoyens, habitants et activistes des villes et des campus de France. Univox, c'est une radiographie bouillonnante et itinérante de l'écosystème étudiant. En partenariat avec AnimaFac et Pépite France, nous avons imaginé une série spéciale autour des étudiants qui entreprennent. Dans leur localité et auprès des publics, ils tentent de porter des projets qui impacteront les territoires.
Univox.
Une vie professionnelle qui n'a pas d'autre sens que d'assurer les revenus du foyer peut être source de frustration, de dégoût et même de stress. Bien au-delà du statut et du salaire, un travail qui a du sens apporte du plaisir et surtout de l'épanouissement. Dans cet épisode réalisé par Radio Campus Montpellier, nous allons rencontrer deux personnes passionnées par leur activité qui donnent quotidiennement du sens à leur vie. Dimitri Joffre, président de l'association Les Grives, nous parlera de leurs actions auprès du monde étudiant et de son objectif principal, accueillir et intégrer les nouveaux étudiants étrangers dans la vie universitaire française et montpelliéraine. Mais tout d'abord, c'est Anne-Cécile Vin, cofondatrice de la Savonnerie Circulaire, qui nous parle de cette aventure professionnelle et engagée qui propose des savons ménagers issus de l'économie circulaire.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de mettre du sens dans ce que je fais professionnellement. J'avais pas envie de me réveiller le matin en me disant j'ai pas du tout envie de faire ça, enfin, faut vraiment que ça ait du sens, quoi. Et depuis le lycée, j'avais envie de faire un métier dans l'écologie. Enfin, avant, je savais pas ce que c'était l'écologie. Parce que quand on l'étudie un peu au lycée ou quoi, on pense surtout à trier ses déchets. Et en fait, l'écologie, c'est l'étude des processus et des interactions entre les espèces dans leur écosystème. Et nous, on fait partie de ces espèces-là. Je pars d'un peu plus loin parce qu'en fait, c'est ce qui a guidé mes études dès le début. Donc, j'ai fait un DUT d'agronomie dans le Gers au début parce que j'avais envie d'étudier les interactions qu'on avait, nous, avec notre production alimentaire. Comment réduire notre impact sur notre production alimentaire sur la biodiversité, en fait. Comment ne pas l'impacter. Donc, ça m'a mené à l'étude du sol. Parce que toutes les interactions intéressantes pour la nutrition des plantes et notre production, ça se passe principalement dans le sol. Et ça m'a amené à étudier les processus de décomposition de la matière organique par les micro-organismes, donc les bactéries, les champignons. Donc j'ai étudié pendant ma licence 3, j'ai fait microbiologie. Et ensuite j'ai fait un master d'écologie des écosystèmes, dont ma spécialité c'était la spécialité terrestre, donc d'étudier tout ça. J'étais dans des laboratoires de recherche pour travailler sur ces thématiques-là. Et ça me plaisait beaucoup et je voulais faire de la recherche du coup. Je voulais un peu, c'est un peu l'idéal qu'on a dans la tête, c'est j'ai envie de sauver la planète en faisant de la recherche intéressante, quoi. Sauf que le monde de la recherche, c'est un peu loin du concret. Ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais moi c'était vraiment loin. J'avais envie que les choses que je faisais avaient un impact, si c'est pas dans les 3 semaines, que c'est un impact dans l'année en fait. Pas dans 6 ans, 8 ans. Bon, après, j'ai appris que construire un projet, ça prenait du temps. Donc, j'ai relativisé. Mais... Donc, en fait, après mon master, j'ai dit, bon, c'est mort, je fais pas de recherche. Ça me rend malade de faire ça. Donc, je me suis réorientée. Et c'est là que j'ai trouvé le dispositif Pépite. Et pendant le confinement, ça a fait un peu tilt. Je me suis dit, mais c'est quoi le truc que j'ai envie de faire? Et la savonnerie circulaire, quoi. Enfin, j'expliquerai un peu plus pourquoi après, mais...
Yes. Voilà. Alors la savonnerie circulaire, en gros, vous proposez des savons ménagers issus de l'économie circulaire.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept et puis comment vous est venue cette idée? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier?
Oui, alors il y a complètement eu un déclic. Justement, c'était pendant le confinement, ça allait pas. Ça se passait pas très bien pendant mon stage de recherche. Je sentais que j'étais en train de travailler sur des processus fondamentaux, le cycle des nutriments, et qui mange quoi, où est-ce que ça va. Et je me suis dit, mais waouh, c'est hyper... Enfin, là, nous, notre rapport à l'écosystème, ça va mal maintenant, en fait. J'ai pas envie que... Je sais qu'il faut faire de la recherche fondamentale, c'est hyper important, mais pour moi, ça m'allait pas. Et en fait, mon frère m'avait offert un petit livret sur faire ses savons soi-même, parce que je fais vachement de trucs à la maison. Et je lis dans la première phrase, toute huile peut faire du savon. Et je me dis, comment ça, tout corps gras, toute huile peut faire du savon, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui sort de notre cuisine, ça peut faire du savon. Et là, ça a vraiment switché, j'ai commencé à faire des recherches partout et j'avais l'impression d'être un chercheur fou qui venait de trouver une idée de folie. Bon, en fait, cette idée, elle existe déjà depuis longtemps. Dans beaucoup de pays, ça se fait. Et justement, ça se fait au Brésil. Et la grand-mère d'Aligny, elle le faisait déjà dans sa maison, en fait. C'est juste que nous, en Europe, on a un autre regard sur nos déchets. On les voit tout de suite comme quelque chose à éliminer, alors que, bah, au final, ils sont encore plein de ressources. Et donc, Aligny, elle avait eu cette idée-là de par sa grand-mère. Et on a eu toutes les deux eu envie de développer notre savonnerie circulaire, entre guillemets, à Montpellier. Et on a été mis en contact. En fait, on se connaissait pas au début. Au début, on s'est vu un peu comme des concurrentes. Et en fait, on a très vite appris à se connaître. On s'est dit, mais on a qu'à s'associer et faire ça à Montpellier. Quoi. C'est débile de se mettre. Voilà.
En quoi le projet de la savonnerie circulaire est un projet écologique?
Ouais, lui, il va être carrément écolo. Enfin, c'est engagé, donc il est écologiste, mais il respecte les lois de l'écologie. Parce qu'en fait, nos produits d'entretien aujourd'hui sont surtout composés de soit de résidus de pétrochimie, on va faire de la chimie de synthèse pour rajouter des choses dedans pour que ce soit plus efficace, mais ça se biodégrade pas, quoi. Ça veut dire que il y a pas des micro-organismes qui vont venir les manger et l'intégrer dans la boucle des nutriments. Ça va finir par faire des tas de microplastiques, et comme on le voit, le microplastique, ça se bioaccumule chez nous et ça nous rend malades, notamment à cause des perturbateurs endocriniens qui sont présents dedans. Et à la fin, en fait, au final, il y a un super projet qui veut réduire la pollution plastique, mais c'est Altoplast, et en fait, on estime que on mange la quantité d'une carte de crédit par semaine en termes de microplastique, quoi. Donc il faut un peu arrêter avec ça.
Ah oui.
C'est pas parce que c'est efficace qu'il faut l'utiliser, quoi. Et après, si c'est pas des résidus de pétrochimie, si c'est marqué origine végétale et tout pitou, en fait, c'est souvent de l'huile de palme et de l'huile de coco. Donc en fait, l'huile de palme, on connaît tous les effets un peu catastrophiques de sa culture sur les écosystèmes, notamment tropicaux. Et en fait, l'huile de coco, c'est cool, mais c'est pire en fait que l'huile de palme, c'est 5 fois plus impactant. Parce que c'est des arbres qui... l'huile palmier aussi, c'est un arbre, hein, mais il produit moins le cocotier que la palme. Donc en fait, on est obligé de faire plus de surface pour avoir le même rendement. Donc ça veut dire que si d'un coup la demande en huile de coco, elle augmente, c'est parti, on continue la déforestation. Enfin, nous, l'idée, c'est de se dire, le seul produit d'entretien écologique, c'est quand il y a de l'huile d'olive, parce que c'est des résidus de pression, à froid et tout. C'est aussi de l'économie circulaire, le savon noir, parce que c'est de l'huile d'olive au final dedans. Et l'idée, c'est de mettre d'utiliser une ressource qui vient pas de Pétaouchnok. Du moins, si elle vient de Pétaouchnok, elle est recyclée, quoi. C'est pas un produit brut qu'on utilise pour faire ça. Et ensuite, une fois que l'huile, on disait tout à l'heure, ça pollue quand on la verse dans l'environnement, quand elle est transformée en savon, en fait, c'est que la grosse molécule qui étouffe, elle est cassée en petits morceaux et elle est associée avec la soude caustique ou la potasse qu'on va mettre avec, et ça va faire des petites molécules. Et c'est elles, les molécules nettoyantes, et quand elles s'associent à des résidus d'alimentaires, etc., ça, les bactéries, elles ont beaucoup plus de facilité à le manger. Et c'est en ça, en fait, que nos produits sont des marques des autres produits. C'est que la ressource initiale, elle est plus écologique, et sa fin de vie, elle est complètement biodégradable, et ça pollue. On peut arroser ces plantes avec l'eau de vaisselle de nos produits, quoi. Ça, c'est bon.
Comment ça fonctionne dans l'idée? C'est des partenariats avec des restaurants, j'imagine, ouais, qu'il y a tout un réseau qui se forme.
Oui, alors en fait, les huiles alimentaires usagées, ça c'est le nom technique et légal des huiles de friture usagées. Et en fait, elles ont obligation d'être traitées depuis 2012, parce que si elles sont libérées dans l'environnement, elles asphyxient les sols et les milieux aquatiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met de l'huile dans son compost, dans la terre ou dans l'eau, ça fait une nappe imperméable. Hein. Tout le monde sait que se mettre de l'huile, ça fait une couche, quoi. Et ça empêche l'air et l'eau de passer, ce qui fait que ça perturbe beaucoup les processus de vie qui se passent dans le sol, comme justement la décomposition. Faut pas mettre l'huile de friture dans son compost, c'est pas parce que c'est naturel que c'est biodégradable à forte dose. Et donc du coup, il y a une obligation légale depuis, et en fait, à hauteur de 60 litres par an produits par les restaurateurs, il faut que quelqu'un aille la chercher et donne un papier en disant « j'ai bien récupéré vos huiles de friture ». Donc en ce moment, c'est surtout tenu par des entreprises qui les collectent et font du biodiesel de seconde génération avec. C'est-à-dire qu'on va le transformer en biodiesel et faire rouler des voitures. Il y a même Airbus qui veut faire voler des avions avec. Donc ça nous embête un peu si Airbus se met à faire ça, on aura plus d'huile. Mais voilà. Donc en fait, on est en partenariat pour l'instant avec Mon Cuisinier de Montpellier. Qui est un restaurateur qui est en économie sociale et solidaire aussi. Donc eux, dès qu'on leur a proposé, ils étaient à fond dans l'idée, parce que c'est leur fibre aussi. Et ensuite, il y a Green Lab Comedy qui est déjà avec nous, qui va nous garder une partie de ses huiles en stock pour nous les donner.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu le fonctionnement de la structure ? Est-ce que vous êtes une association ? Est-ce que vous êtes une entreprise ? Combien vous êtes ? J'ai bien compris, vous êtes deux pour l'instant.
Oui.
Quel poste vous occupez ? Comment vous voyez l'évolution ?
Alors, on est en train de monter l'entreprise. On est en train de courir partout pour faire les papiers en ce moment. Donc, en fait, on est deux et on monte une SCOP. Une SCOP, pour expliquer un petit peu, c'est l'idée que les salariés qui sont présents dans l'entreprise peuvent faire le choix. Non, mais souvent on les incite à faire ce choix, c'est de devenir salariés associés, c'est-à-dire qu'ils vont être inclus dans les décisions importantes de l'entreprise. Et ensuite, quand il y a des excédents nets de production, je crois, en fait, quand on a ça, ben, il y a des règles dans les statuts de l'entreprise qui disent ben, tant de pourcents partent dans le fonds de l'entreprise, c'est-à-dire que ça va nous faire un petit coussin d'atterrissage, tant de pourcents partent dans la recherche, par exemple, et tant de pourcents partent redistribués à tous les salariés. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on était tous un peu actionnaires de l'entreprise et qu'on reçoit les, entre guillemets, bénéfices. L'URSCOP, il serait en mode, non, faut pas dire ça, mais de notre excédent d'activité, quoi.
Dans ce podcast, on s'intéresse à l'importance, justement, de remettre du sens dans son travail et donc dans sa vie, par plusieurs aspects. La savonnerie circulaire, c'est un projet engagé, écologiquement, bien sûr, mais aussi éthiquement. Tu nous en as parlé au début, mais en quoi c'est important pour toi d'avoir un tel engagement dans ton milieu professionnel ?
Oui, alors on va revenir à l'origine. On parle beaucoup d'éco-anxiété en ce moment. Et c'est un mot qui est de... Enfin, moi je ne connaissais pas ce mot il y a encore 5 ans. Et en fait, moi, l'éco-anxiété, c'est un truc... Alors, pour définir, c'est le fait de se sentir un peu impuissant face à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et notamment la dégradation de notre environnement, de la biodiversité, la pollution, les problèmes de santé que ça cause sur notre société. Enfin, et en fait, moi, ce truc-là, maintenant que ça a un nom, c'est bien, mais j'avais ça depuis que j'étais petite, en fait, depuis le primaire. Donc, depuis petite, j'avais envie de faire un travail qui avait du sens. Au début, c'est passé par être chimiste. S'il y a besoin de chimiste pour trouver des solutions, je voudrais être chimiste. Non, mais en fait, chimiste, ça me plaît pas trop. Et ben, je serais biologiste. Voilà, je serais chercheur en biologie. Parce qu'en fait, ça me rend malade. C'est un peu mon caractère. De ne pas faire un truc qui a du sens. C'est un peu viscéral, quoi. Si je me retrouve coincé à un truc où je vois que ça n'a pas d'intérêt, bah, au bout de 2 mois, ça pète, en fait. Je vais dire, c'est bon, j'arrête, c'est pas la peine. C'est dans mon caractère, on va dire. Je pense que c'est dans le caractère de beaucoup de personnes, mais que des fois, on est prêt à accepter, à faire des concessions. Et moi, j'y arrive pas à faire des concessions.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre écosystème de travail, qui sont les partenaires de la ouais. savonnerie circulaire, les financeurs peut-être aussi, les collectivités qui vous soutiennent ?
Oui. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, nos fournisseurs d'huile, ça va être mon cuisinier Green Lab, et on devait encore en trouver 5 ou 6 autres pour commencer l'activité. Donc, si vous êtes des restaurateurs intéressés pour donner du sens à vos recyclages d'huile et pas les envoyer à Dunkerque, c'est quand même dommage, on est là. Et ensuite, en termes de distributeurs de nos produits, en fait, pour nous, on n'a pas vocation de vendre nous-mêmes nos produits, à part de professionnel à professionnel. Donc, il y a les professionnels de l'entretien, justement, comme Igisphère. C'est en fait le professionnel d'entretien, c'est les gens qui vont venir nettoyer les copropriétés, les bâtiments d'entreprise, etc. Et eux, ils ont besoin de savon aussi. Et ensuite, on va vendre dans des magasins. Et on a axé notre ligne de revente autour des magasins vrac, bio et locaux. Donc c'est tout ce qui est day by day vrac, biocop. On est allé visiter les biocop. Il y a la vie claire, les locavorium. Les petites épiceries aussi, Kezako, la petite bulle. On est allé voir le chêne vert aussi, enfin toutes ces enseignes qui sont axées un peu dans la même fibre que nous. Et après, en termes d'accompagnement, il y a des dispositifs d'accompagnement en fait quand on veut monter son entreprise. Il ne faut pas rester tout seul. Et justement, il y a eu Pépite, qui est un dispositif national. Si je ne me trompe pas, c'est le ministère de l'Enseignement qui tient ce dispositif. Et après mon année là-bas, on est allé chez Alter Incube. Enfin, mon associé était déjà chez Alter Incube, donc c'est un incubateur. Un incubateur, c'est un endroit où on va avoir des cours, des formations, un tuteur qui va nous accompagner pour faire notre projet. Et Alter Incube, c'est l'incubateur de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, comme on a un local, on est passé chez Realis, et c'est un dispositif régional, justement, d'accompagnement. Enfin, c'est une pépinière même, qui va faire des espaces de coworking avec les autres entreprises du territoire et qui sont plutôt axées, pareil, sur l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire qu'en France, il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont mis en place pour développer cette économie sociale et solidaire, quoi.
Peut-être qu'on peut finir par les informations pratiques, si on veut retrouver la savonnerie circulaire sur les réseaux sociaux, sur Internet, et puis donc en physique dans votre tout nouveau local.
Oui, Eh ben, alors on est sur les réseaux. On est sur Facebook et Instagram, donc c'est @la.savonnerie.circulaire. On a un site internet qui mérite d'être bien repimpé, mais bon, si vous tapez la savonnerie circulaire, vous le trouverez également. Et bah, le local, ce ne sera pas un local de revente, donc bon, ça n'a pas trop d'intérêt si je vous dis où il est, mais en tout cas, il est à La Mosson, à côté du pôle, enfin, sur le pôle réaliste. Et sinon, pour nous contacter par mail, c'est la savonnerie circulaire, tout attaché, sans point, @gmail.com. Et voilà.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Et tout de suite sur Radio Campus Montpellier, nous sommes très heureux d'accueillir Dimitri Joffre, président de l'association Les Grives. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc l'association Les Grives contribue à la vie culturelle de l'université Paul Valéry à Montpellier, prenant en charge l'accueil des étudiants étrangers. Est-ce que tu peux nous parler de l'ensemble de vos actions ?
Alors oui, c'est je dirais que c'est très difficile de répondre à cette question en quelques mots. L'association, donc, elle existe depuis 6 ans à peu près. Il y a une initiative en fait étudiante, une étudiante allemande qui est venue en Erasmus et dit « Dommage, sur Montpellier, il n'y a pas une structure étudiante qui encadre les étudiants. Pourquoi pas la créer ?» Et cette idée est née de là avec des étudiants de lettres et d'autres filières. Et ensuite, il y a eu des activités comme des visites guidées. Ensuite, on a voulu faire des soirées linguistiques, des soirées fromage, vraiment favoriser la... Oui, dire soirée fromage, c'est très français. Il ne manquerait plus que rajouter le vin avec. Et...
J'ai jamais fait de soirée fromage, ça doit être très sympa.
Ah ben, très franchement, on est attablé autour d'à peu près une dizaine de fromages et on prend le pain, on casse la croûte et c'est vraiment très convivial. Donc,
j'imagine.
Donc c'est assez impressionnant. Et ensuite, grosso modo, on varie encore nos activités avec des événements un peu culturels, des soirées films, des choses comme ça.
Et du coup, de fil en aiguille, comment vous en êtes arrivé à prendre en charge l'accueil d'étudiants étrangers ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ?
Alors, le déclic, et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'université Paul Valéry, ben c'est vraiment le bouche-oreille, en fait. Donc, du coup, je suis aussi en filière LED. J'ai des amis qui étaient de base... dans l'assaut, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit viens déjà prendre un verre d'eau, viens prendre une collation là-bas, ensuite viens faire des après-midi, et de fil en aiguille, vu que le local en fait est très chaleureux parce qu'on possède un local, au final je restais beaucoup d'après-midi, et ensuite je me suis dit tiens, c'est pas mal cette association, j'ai bien envie de m'intégrer à l'intérieur. Et donc du coup, j'ai passé un peu les étapes, vu que dans l'association, on a à peu près 3 statuts, où du coup, on a la plus grande liberté, où on participe aux activités en tant qu'adhérent. Ensuite, on crée aussi les activités avec les membres du bureau. Et ensuite, on devient un membre du bureau, où là, on est un peu le grand patron de l'asso.
Alors, quels ont été les grands axes de cette année universitaire qui se termine petit à petit ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué cette année, des actions que vous avez entreprises ?
Alors, cette année a été très, très particulière parce que c'est une année post-Covid. Et en fait, on revenait d'une période où la fac était fermée, les associations ne pouvaient rien faire et même la vie culturelle, de manière générale, était vraiment en stand-by. Là, du coup, cette année, ça a été impressionnant parce qu'il y a eu un foisonnement d'événements interassociatifs. Et en fait, grâce à plusieurs partenaires comme AnimaFac, la MDE, au sein de Paul Valéry, mais encore le RESES et aussi la DRIF qui est notre partenaire au sein de Paul Valéry, on a pu en fait vraiment s'intégrer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a une guéguette partie, donc c'est la journée d'association à Paul Valéry. Nous, ensuite, on a fait une sortie nature, on a ramassé des déchets au mois de novembre, on a fait des soirées linguistiques pour accueillir les étudiants internationaux, on a fait une soirée Ghibli dernièrement, et en fait, au final, avec toutes ces activités, on a encore plus de projets pour l'année prochaine. Donc franchement, je dirais que cette année post-Covid, elle est fructueuse pour toutes les associations.
Alors dans ce podcast, on s'intéresse particulièrement à l'importance de remettre du sens dans son travail et donc dans sa vie. Par plusieurs aspects, l'association Les Grives est un projet engagé dans l'accès à la culture pour toutes et pour tous, ou encore dans la lutte contre les discriminations, l'insertion dans la société. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un tel engagement dans ton entreprise associative, enfin ?
Alors, évidemment, je dirais entreprise personnelle, que par définition, on est non lucratif. Mais oui, c'est... disons que pour répondre, c'est que vu qu'on est déjà dans un cursus universitaire, on nous dit souvent, allez, il faut te lancer dans un bac plus 5, allez, il faut réussir ton année, allez, il faut penser qu'à ça, forcément, être dans du trop scolaire, c'est pas forcément le plus important pour nous. On a envie de réaliser une vie étudiante. On a des exemples un peu de la fac à l'américaine où on voit des films, ce qui fait que nous aussi on a envie de se sentir engagé dans une France qui bouge. Dernièrement il y avait les élections, donc voilà, il y a un peu une effervescence étudiante qui se dit allez, on va faire des choses, et être dans une association, c'est génial vu que c'est à portée de main, c'est aussi à portée de bras parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de sous. Il n'y a pas besoin d'avoir une logistique impressionnante. Il faut juste pouvoir avoir des idées, des initiatives, aller voir la MDE et participer à ça. Surtout qu'on parlait d'engagement personnel, mais c'est aussi un engagement qui se fait sur la fac, parce qu'on a plein de petits projets qui ont fait des critères. Il faut que ce soit accessible aux étudiants, que ça valorise l'université ou le campus universitaire. Donc techniquement, on a toujours des critères qui font qu'on est orienté pour le bien-être des étudiants et valoriser aussi la culture. Après, je dirais que c'est propre à l'association Les Grives, vu que nous, on est lié à l'accueil des étudiants internationaux. Donc forcément, pour réduire le choc des cultures ou favoriser l'intégration, forcément, il faut passer par des thèmes communs, donc tout ce qui est film, tout ce qui est musique, tout ce qui est soirée fromage, évidemment. Donc voilà.
Est-ce que maintenant tu peux nous parler de votre écosystème de travail, par exemple, qui sont vos partenaires, qui sont vos financeurs, qui sont les collectivités qui vous soutiennent ?
Alors, je t'avoue que c'est encore une question difficile parce que, si tu veux, sur les 6 ans, je dirais que cette année, c'est vraiment l'année où l'association va presque sortir de terre. Parce que là, on veut essayer de faire quelque chose de grande ampleur. Donc, pour te résumer, nous, de base, on travaille avec la DRIFT. Donc, c'est le pôle lié à l'accueil des étudiants internationaux au sein de Paul Valéry. Donc, on a toujours collaboré avec eux. Ensuite, on travaille aussi avec ESN. Notamment, on va renforcer cette collaboration cette année, puisque ESN, c'est vraiment à plus grande échelle, presque européen. C'est européen et pourquoi pas mondial. Donc l'antenne de Montpellier est très sympa, et ils sont très sympas, donc on va beaucoup travailler avec eux cette année. On va aussi travailler avec la SAIEC, qui valorise le parrainage international. Donc chers auditeurs, franchement, allez dans le parrainage international parce que c'est génial. Vous pouvez apprendre d'autant plus à la fois en vous que chez les autres, donc ça c'est génial. On va aussi travailler avec le CROUS. On a aussi la MDE qui nous aide beaucoup. Et on a même le réseau associatif en lui-même, avec le RESES, avec AnimaFac. Donc disons que c'est difficile de répondre en quelques mots, mais on essaye vraiment d'étendre au final la toile d'araignée pour justement essayer de toucher un maximum de personnes, que ce soit des Montpelliérains, des étudiants français ou des internationaux, pour favoriser l'échange.
Alors, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à celles ou à ceux qui souhaiteraient se lancer, que ce soit par le milieu associatif ou par le travail, dans un projet de l'économie sociale et solidaire ?
Alors, moi, je pense que oui, j'en ai un, même plusieurs. Déjà, il faut avoir du courage de franchir l'étape de la théorie à la pratique. Parce que je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais quand je suis à Paul Valéry, il y a toujours des projets de test, en fait, qui nous sont demandés pour des dossiers ou des choses comme ça. Et en fait, le dossier, il est abouti. On a tout le process carrément. Et il faut juste trouver l'étape pour aller vers la concrétisation. Donc déjà, du courage. Il faut aussi avoir des idées et de la motivation pour justement tenir à bout le projet et surtout ne pas lâcher prise. Parce que quel que soit le moment dans ce process, il y aura un moment de réalisation et surtout il y a plein de personnes qui sont à côté pour nous aider, du moins en association. Pour le monde de l'entreprise, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours des solutions. Donc, à mon avis, n'hésitez pas à vous lancer, mais surtout demandez aussi à d'autres, des mentors, pour comprendre comment on les réalise. Et c'est pour ça que l'association fonctionne avec ces trois statuts, pour justement passer d'une étape où on est juste adhérent, on est juste presque spectateur de l'activité, à vraiment membre du bureau, où on devient pleinement acteur de ces activités.
Est-ce que tu connais des financements, des accompagnements particuliers, des accompagnements de projets qui existeraient sur Montpellier ou dans le coin en tout cas?
Alors, il y en a pas mal et je dirais que je remercierais avant tout la GEM. Donc, c'est une entité interassociative à Paul Valéry qui m'a au final indiqué toutes les subventions, toutes les structures où on pourrait demander des sous quelque part. Mais en enlevant ce côté un peu monétaire, toutes les structures qui peuvent justement nous aider. Donc déjà, on peut partir de la racine où il y a Paul Valéry, puisque justement la maison des étudiants MDE constitue une entité qui permet de financer des projets selon des critères bien précis, puisqu'il y a une commission. Ensuite, on peut aussi avoir le Crous Culture, qui aide beaucoup tout étudiant. On peut aussi avoir la mairie de Montpellier, qui justement valorise les activités au sein de la ville. On peut aussi demander à des associations qui sont, on va dire, professionnalisées et professionnalisantes. On peut aussi demander au RESES, à AnimaFac. On a plein, au final, de structures qui peuvent nous aider. Ou même, on peut très bien demander des formes de dons. On peut très bien aussi aller récolter de l'argent nous-mêmes. C'est aussi possible avec tout ce qui est les ventes de crêpes, des choses comme ça. Donc, je dirais que je peux à la fois répondre rien parce que si on ne fait pas le geste, on peut trouver aucune structure. Et à la fois tout parce que chaque individu peut constituer la personne qui nous subventionne.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode spécial d'Univox consacré aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs proposé en partenariat avec Pépite France et AnimaFac. Cet épisode a été réalisé par Radio Campus Montpellier pour Radio Campus France. Un grand merci à Anne-Cécile Vin de la Savonnerie Circulaire et à Dimitri Joffre de l'association Les Grives d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée sur les ondes de Radio Campus. Univox.